Letellier Gosselin Duclos Avocats, votre partenaire depuis maintenant 30 ans. Letellier Gosselin Duclos, une équipe dynamique qui sait faire la différence. Letellier.com.
Avec Maître Geneviève Blais du cabinet Letellier Gosselin Duclos Avocats. Bonjour Maître Blais, comment ça va?
Bonjour Michel, ça va très bien et toi?
Ben oui, ça va très très bien. On parle de conjoint de fait ce matin.
Oui, conjoint de fait. On est à l'aube, on a bien beau être en mode COVID. Il y en a plusieurs qui vont effectuer des déménagements, des achats de propriétés avec la période estivale. Et je trouvais important de rappeler à nos auditeurs ce matin là, quelques notions de base justement relativement au conjoint de fait. Quels sont nos droits ou quels ne sont pas nos droits? Parce que avec l'Ontario qui est si près de nous, il y en a plusieurs qui se croient bien, bien, bien protégés après quelques années de vie commune, alors que c'est tout le contraire.
Donc, ben, c'est important que tu en parles aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, parce que non seulement... tu as réglé mon divorce il y a quelques années, en fait, l'année passée. Mais là, je m'apprête à acheter une maison avec ma conjointe de fait. Aujourd'hui même, on s'en va signer chez le notaire. Alors, chérie, écoute ce qui suit.
Donc, quelques notions, évidemment. On va acheter une maison. Et là, une chose qu'il faut garder en tête, c'est justement, quand on achète une maison, est-ce qu'on fait une mise de fonds sur la propriété? Cette mise de fonds-là, des fois, on est en mesure de la faire équitablement. Donc, un montant, exemple, de 10 000 pour un, l'autre conjoint met la même somme, puis on met cette mise de fonds-là vers la maison. Mm. Cette situation-là, Michel, cause pas trop de problèmes parce qu'au final, même s'il n'y avait rien de prévu à l'acte notarié, si on dit, écoute, on est copropriétaire 50-50, mm-hmm. si jamais on se sépare, on revient avec les mêmes montants. Par contre, il y a plusieurs cas où il y a une des deux personnes qui est en mesure de faire une mise de fonds. Puis à ce moment-là, mais là, il faut le prévoir parce qu'on peut perdre au final cet investissement-là, cette équité-là qu'on a construit là, dans les dernières années. Donc, ce qui est important de faire, en fait, c'est de, quand vous entrez justement dans le processus d'achat, quand vous donnez les directives à votre notaire de préparer les documents, c'est d'avoir la discussion avec son conjoint. Dire, chérie, écoute, j'ai un peu plus d'argent que toi de cumuler. Moi, je veux protéger cet acquis-là, on va le mettre dans l'acte notarié. Et le notaire peut facilement faire ça. Donc, on va avoir à ce moment-là juste un ajout d'un paragraphe qui va aller prévoir, par exemple, qu'il y a un conjoint qui donne 30 000, puis l'autre, c'est 10 000. Mais au moins, ça nous laisse une trace. Puis, on peut aussi prévoir dans notre acte notarié qu'est-ce qui arrive justement en cas de rupture ou juste en cas de vente. Est-ce qu'on va revoir cette mise de fonds-là ou bien c'est un montant qu'on laisse sur la table purement et simplement. C'est important de le faire, Michel, parce que à titre de conjoint de fait, on en a parlé quelques fois dans nos chroniques, on n'a pas beaucoup de protection là, qui s'offre à nous. Que ce soit quand on parle de fonds de pension, des régies des rentes, etc., c'est chacun pour soi quand on est conjoint de fait. C'est la même chose quand on a une propriété. Si on entre dans la propriété puis on dit, ben écoute, on est 50-50 là-dedans, c'est notre protection de 50-50. Mmh. Mais si on débourse des sommes supplémentaires d'un côté ou de l'autre, ou qu'il y en a un qui, au final, dit « Écoute, moi, je paye rien, finalement », mais il faut que ce soit prévu quelque part, ça. Soit dans notre acte notarié ou dans un contrat, parce qu'autrement, je te donne l'exemple, par exemple, de toi, puis je sais pas si c'est la situation, mais si tu dis « Écoute, on met 10 000, chérie, il n'y a pas de problème », puis au final, ta conjointe fait tous les paiements par rapport à la maison et toi, tu n'en fais aucun. Vous vous séparez dans 3 ans, mais on va justement aller voir dans l'acte notarié, dire qu'est-ce qui était prévu entre les gens. Oh, attends, on a prévu que peu importe qui allait mettre combien d'argent dans la maison, ça allait demeurer un 50-50. Donc, danger, parce que là, bien évidemment, tu t'enrichirais aux dépens de ta conjointe qui a fait tous ces paiements-là. Alors, Michel, que si déjà aujourd'hui, vous savez, par exemple, que en fonction de vos moyens, je sais pas moi, tu es capable de payer 30 % ta conjointe est capable d'en payer 70 % il n'y a rien qui empêche les gens d'aller prévoir ce pourcentage-là à l'acte de façon plus ou moins précise, puis de partager justement le profit ou l'équité que vous allez construire au fil des ans en fonction de ce pourcentage-là. Oui, oui, oui. Comme ça, ben ça vous permet justement de peut-être d'éviter les frictions dans le couple, de savoir justement dans quoi vous embarquez, de savoir qu'est-ce qui va arriver si jamais ça ne fonctionne pas ou s'il y a une vente. Ça protège vos actifs. Puis comme ça, on n'embarque pas dans un régime qui s'apparente à des gens mariés où, d'une façon ou d'une autre, on va partager à moitié-moitié l'équité qu'on construit ensemble là, dans la maison.
C'est important de le préciser, ça, parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait la mise de fonds, Geneviève, puis je veux pas rentrer dans nos vies, mais c'est facile de dire, bon, ben écoutez, moi, j'ai plus de revenus, puis ça peut être comme ça dans plein de couples, là. Un des deux membres du couple a plus de revenus, plus de... Si c'est 50-50, il y en a un qui passe ses payes à payer pour la maison, l'autre, il paye une très faible portion de son revenu, puis là, ben, il peut tout acheter, puis il peut tout dépenser, fait qu'à un moment donné, ça mène à l'échec, ou encore de s'entendre, puis dire, ben moi, je peux payer 65-70% de l'hypothèque, puis ça va nous donner quand même une marge de manœuvre aux deux pour nos petites dépenses, puis nos à-côtés, puis je pense que c'est ça qui est plus simple. Il faut le prévoir, ça, il faut l'écrire pour que en bout de ligne, la personne qui paye plus va récolter un plus grand pourcentage. Il faut s'entendre là-dessus avant même de le faire.
Effectivement, puis à tout le moins, il y a des gens qui vont décider que c'est 50-50, peu importe la contribution. C'est correct aussi, oui. Puis oui. C'est tant mieux, mais il faut être conscient de ça. C'est là souvent où les gens arrivent dans nos bureaux, Michel, puis ils nous disent « Oh, attends, j'étais pas au courant, j'ai mal lu. » Donc, prenez le temps de vérifier avec votre notaire l'implication, justement, du contrat que vous signez. Qu'est-ce qui est prévu, puis est-ce que ce que vous aviez discuté comme couple est reflété dans cette entente-là, dans ce contrat-là? Parce qu'évidemment, ben, on parle de la maison, Michel, mais ça peut toucher aussi les cartes de crédit, les marges de crédit, les comptes bancaires. Souvent, on dit, ben écoute, j'ai une carte de crédit, prends-la, utilise-la, c'est pas grave. Mais si cette carte-là est à votre nom, vous avez bien beau en faire profiter l'autre, vous allez être pris avec cette dette-là au final. Donc, il faut vraiment faire attention ou au moins être conscient comme conjoint de fait que quand on est dans ce type de relation-là, ce qui est à votre nom est à votre nom, ce qui est au nom de l'autre est au nom de l'autre. Ce qui est commun, mais il faut aller déterminer justement si rien qui est prévu, ça va être présumé à être moitié-moitié. Autrement, ben, il faut aller le prévoir. Mais vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous écopez de grandes dettes que vous n'avez pas engendré vous-même. Là. C'est l'autre qui est parti avec des cartes de crédit, les a remplis. Puis au final, on ne sera pas responsable. Même chose au niveau de la maison. Des fois, on va se retrouver avec des gens qui partagent de l'équité alors qu'ils n'auraient peut-être pas dû au départ s'ils l'avaient bien prévu. Donc, soyez conscients de ça, au moins pour prévoir les coûts. Si vous faites des achats de meubles, on en a aussi parlé là, il y a un bon moment aussi dans les chroniques, mais des achats de meubles, c'est facile de dire, ah, ben, ton nom, tu as déjà un dossier d'ouvert à tel endroit, on va mettre ton nom sur le document. Non. Faites l'effort, prenez les 5 minutes là, pour aller faire la modification, que ce soit à votre compte. Si vous êtes le payeur, assurez-vous d'obtenir tout de suite votre protection, parce que c'est ça, votre protection, d'avoir un contrat qui est à votre nom, qui reflète vraiment qui a fait le paiement. Parce qu'au final, si bon, il y a une rupture, s'il y a un litige, vous ne vous entendez pas, que ça arrive dans nos bureaux ou que ça arrive devant le tribunal ou même chez le médiateur, on va vous demander qui a payé quoi? Avez-vous des documents pour supporter ce que vous me dites? Puis là, on va faire l'exercice justement d'aller voir soit dans les comptes bancaires, des relevés de transactions. Puis bien, c'est important justement d'avoir bien fait les choses au départ. Ça facilite de beaucoup la rupture. Puis ça facilite aussi la séparation parce que si on a des documents sur lesquels on se réfère, bien, ça prend moins de temps, Michel, de te trouver... trouver la trace de quels étaient les vrais faits plutôt que de se chicaner ou d'essayer justement de se rafraîchir la mémoire sur « Ah oui, non, moi j'ai payé telle chose, oh non, c'est toi qui as payé telle autre chose. » Si vous avez un document qui en fait office, ben c'est plus facile à ce moment-là de le traiter.
Il nous reste moins d'une minute, Geneviève. Les gens d'affaires également, les propriétaires d'entreprises dans un couple conjoint de fait, c'est fréquent. Et il faut se protéger également, il faut protéger l'entreprise également, là, Geneviève.
Protection aussi, parce qu'on voit souvent là, encore des cas classiques, là, mais un conjoint, homme ou femme, qui a une entreprise puis qui, au fil du temps, demande l'implication de l'autre ou l'autre s'implique volontairement puis le fait de bonne foi, évidemment, parce que ça lui fait plaisir. Puis ça prend de plus en plus de place dans le couple, dans notre relation professionnelle. On va se retrouver des fois avec des gens, Michel, qui n'ont pas de salaire ou très peu de salaire pour la quantité de travail qu'ils effectuent. Donc, c'est important, si vous êtes en affaires, de vérifier justement quel titre on va donner à votre conjoint, quelle implication il a, parce que ça pourrait donner ouverture à une réclamation en enrichissement injustifié. Donc, c'est un recours qui existe pour les conjoints de fait, qui permet d'aller réclamer certaines sommes d'argent, par exemple, si on n'a pas été rémunéré ou pas suffisamment rémunéré pour l'implication qu'on peut avoir mis dans l'entreprise de notre conjoint. Donc, je vous dirais, ce qui est à se souvenir ce matin, là, c'est faites attention ou au moins allez vous informer avant de plonger tête première là, dans une relation comme celle-là. Allez voir au moins quels sont vos droits. Puis si vous le jugez pertinent ou si justement après discussion, vous croyez que faire un contrat de vie commune, c'est nécessaire ou justement d'avoir la discussion, c'est nécessaire, bien, tant mieux parce que ça évite justement des problèmes dans le futur. C'est plus facile de mettre des droits en place tout de suite puis de pallier au pot cassé, là.
Absolument. OK, Geneviève, s'il y a des gens qui avaient des questions à vous poser, des questions supplémentaires ou besoin de recourir à vos services, comment on fonctionne?
Le site Internet est la meilleure façon pour nous joindre. Vous avez les coordonnées téléphoniques puis courriel. Donc, letelier, letelier.com.
Merci beaucoup, Geneviève. À la semaine prochaine.
Plaisir.
Au revoir. Geneviève Blais, elle est avocate au sein du cabinet Letelier-Gosselin-Duclos. Vous pouvez la rejoindre au letelier.com.